Le bon roi Dagobert. On pourrait légitimement tout craindre du successeur de Clotaire II et de Frédégonde, deux gouvernants qui n'ont reculé devant aucune monstruosité, aucun crime d'intérêt, que les années de prospérité vécues entre la fin de Brunehaut et la mort du roi Clotaire en 629 n'absolvent rien. Mais l'enfant de Bertrade, femme de Clotaire, le petit-fils de Frédégonde, Dagobert, est l'antithèse de ses prédécesseurs. Dagobert est né en 600. En 623, il a été nommé roi d'Austrasie par son père. Le trône d'Austrasie étant inoccupé depuis la mort de Brunehaut et les Austrasiens réclamant un roi. À la mort de son père, il désire régner sur tout le royaume. C'est un travailleur infatigable. Il quitte Metz et s'installe à Paris, ville dont il veut faire sa capitale. Il transforme en province la Neustrie, la Bourgogne, province qu'il parcourt sans relâche, ayant le souci constant de rendre la justice, d'écouter les requêtes de chacun, jugeant, non pas en fonction des dons qu'on lui a faits ou de l'importance de la personne, mais en toute équité. Cela ne l'a pas empêché d'éloigner son frère Charibert du trône en lui accordant l'Aquitaine, puis de reprendre cette même Aquitaine lorsque Charibert disparaît fort opportunément, de même que le fils de celui-ci l'année suivante. Vieille habitude franque. Faisons une incursion, en passant, dans un tribunal mérovingien. Le droit est fondé sur l'ordalie. L'ordalie, de l'anglo-saxon ordal, signifiant jugement ou partage, même racine pour l'anglais deal, est le jugement de Dieu. En justice mérovingienne, pour les petits délits, une décision orale suffit. Mais pour les infractions graves, le suspect est amené devant le tribunal, le malus, composé de comtes et de notables locaux. Alors, ou bien le suspect arrive en compagnie d'amis ou de voisins qui vont affirmer avec lui son innocence, ou bien, sans témoin, il va être soumis à l'ordalie, on jette alors le prévenu dans l'eau bénite. Si le corps s'enfonce, c'est que l'individu est innocent. S'il flotte, l'eau bénite le rejette, donc Dieu ne veut pas d'un coupable. Et voilà, c'est simple, il suffisait d'y penser. Lorsqu'ils estiment le suspect innocent, les juges peuvent aussi choisir l'ordalie de l'eau chaude, dont il est facile de se tirer sans dommage. S'ils le pensent coupable, ils choisissent l'ordalie du fer rouge, qui consiste à prendre un fer incandescent à pleine main. Et cette ordalie-là ne pardonne guère. Sans remporter de victoire éclatante, Dagobert, qui est davantage un politicien qu'un chef guerrier, maintient la paix et la renforce dans son royaume. En 627, les Saxons commencent à manifester des désirs d'invasion. Il les maintient dans l'obéissance. Deux ans plus tard, il signe un traité d'amitié avec Héraclius, l'empereur byzantin. Puis, il soumet les Gascons, en 637. En 638, les Bretons de la Domnonée, qui s'étendaient du pays de Dole, nord de l'île-et-Vilaine, au Léon, nord Finistère, se révoltent et, sous le commandement de leur roi Judicaël, font des incursions dans les cités de Rennes et de Nantes qui sont soumises aux Francs. Judicaël est invité à se rendre à Clichy auprès de Dagobert, si habile que le roi breton accepte de rendre tout ce qui avait été conquis. Dagobert sait s'entourer d'adjoints compétents et efficaces. Ce sont en quelque sorte des ministres qui jouent le rôle de conseillers et parviennent à équilibrer des comptes sans cesse sollicités par un Dagobert fort soucieux de donner de grandes fêtes, de vivre dans le luxe. Sa cour est célèbre dans l'Europe entière. Trois des ministres conseillers de Dagobert ont laissé leur nom dans l'histoire. Né près de Limoges en 588, Éloi, que ses parents nommaient Éligius, l'élu, est un orfèvre si habile qu'il est envoyé à la cour du roi. Intime de Dagobert, il joue les ambassadeurs auprès du roi breton Judicaël, notamment, puis fonde des monastères. Il est nommé évêque de Noyon en 641, après la mort de Dagobert. Didier, autre homme de confiance de Dagobert, devient évêque de Cahors afin de faire face aux périls wisigoths. Troisième conseiller, et non des moindres, dans l'entourage du roi, Ouin. Né près de Soissons, Ouin, de son vrai nom d'Adon, devient chef de la chancellerie, autrement dit ministre de la justice. Lorsque Dagobert meurt en 639, Ouin, qui deviendra Saint-Ouen, est sacré évêque de Rouen.